Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 50 du podcast Productif au quotidien. Aujourd'hui, on célèbre les 1 an de ce podcast-là, le 50e épisode. Donc, vraiment, c'est une occasion spéciale et je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et pour souligner l'occasion, je vous présente aujourd'hui un invité de marque. Je reçois ici sur le podcast Julien Guénia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, dans le domaine de l'organisation en francophonie, c'est vraiment un pionnier. C'est un des premiers à avoir lancé son blog il y a plusieurs années sur la thématique de l'organisation. Julien, dans le fond, c'est le fondateur du blog qui s'appelle Organisologie, mais c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Donc, c'est un spécialiste de l'organisation, un pilier qui est là depuis des années, comme je vous ai mentionné. Et aujourd'hui, je le reçois. C'est un privilège pour moi de pouvoir l'avoir ici. On a une bonne relation, moi et lui, des belles collaborations qu'on fait ensemble depuis nos tout débuts. Et il va venir nous parler aujourd'hui d'un sujet dont il est le spécialiste, la gestion de la surcharge d'informations. Parce que vous savez, dans notre quotidien, en fait, un des enjeux fondamentaux de l'organisation personnelle, c'est la gestion de notre information. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pensez un instant à votre vie, à vos journées, à vos semaines de travail et regardez la somme astronomique d'informations que vous avez à gérer à tous les jours, que ce soit les multiples courriels que vous recevez. Ce n'est pas rare dans mes accompagnements et dans ma formation, la méthode zéro courriel, que je vois des gens qui me disent « je reçois 150 courriels par jour, 100 courriels par jour », sans compter les tâches que vous avez à faire, les notes que vous prenez en réunion, les idées qui vous passent par la tête, les demandes verbales qu'on vous fait, les appels téléphoniques que vous recevez, les messages textes. Bref, on est bombardé d'informations, sans compter aussi le contenu qu'on veut consommer sur le web, que ce soit les podcasts qu'on aimerait écouter, les articles qu'on voudrait lire, les livres qu'on voudrait lire, etc. Donc, ça nous prend absolument un système pour gérer toute cette information-là. Et c'est un peu de tout ça qu'on va parler avec Julien dans l'entrevue d'aujourd'hui. Donc, on va discuter de ce phénomène-là, de la surcharge d'informations, les problèmes, les conséquences que ça peut apporter. Et on va discuter ensemble aussi de pistes de solutions, comment mettre en place un bon système pour gérer son information, quelle application utiliser pour organiser ces choses et comment qu'on fait aussi pour réduire l'information qu'on reçoit au quotidien. Donc, c'est le programme de cet épisode. J'espère que vous allez l'apprécier. Et sans plus tarder, je m'en vais de l'autre côté et je vais aller retrouver mon invité, Julien Guénia. Alors, salut Julien, je te souhaite la bienvenue sur le podcast et surtout, ben merci d'être là pour le 50e épisode. Je suis très content d'avoir un invité de qualité comme toi pour souligner le 1 an de ce podcast. Comment tu vas?
Salut Mathieu, merci d'avoir pensé à moi justement pour ce 50e épisode. Félicitations et puis je vais bien.
Ben écoute, Julien, de mon côté, c'est stratégique aussi de t'inviter pour ça parce que justement, je disais dans l'introduction à nos auditeurs que toi, t'es vraiment un ancien, un vétéran dans la thématique de l'organisation sur Internet en francophonie. Et par curiosité, ça fait combien de temps, toi, que t'es là avec ton blog, ton site web, où est-ce que tu parles d'organisation? Je pense que ça fait vraiment longtemps, là.
Ouais, alors... Je peux pas te dire exactement quand c'est précisément que j'ai commencé sur mon précédent blog à parler d'organisation, aux alentours de 2012-2013, mais je m'y suis mis plus sérieusement en 2016 lorsque j'ai lancé Organisologie. Là, j'ai commencé à vraiment professionnaliser ça et puis essayer d'apporter un maximum de valeur, même si le sujet m'apportait déjà beaucoup avant et m'a beaucoup aidé avant personnellement dans ma vie privée, quoi. Donc on va dire bientôt une dizaine d'années.
C'est ça, parce qu'au début, tu avais commencé, je me souviens, tu avais le site Leader Blogueur et là, tu parlais un peu organisation, développement personnel, tout ça. Mais à un moment donné, comme tu dis, en 2016, c'était vraiment tout redirigé vers ton nouveau site qui s'appelle Organisologie, c'est ça?
Voilà, Organisologie, exactement. Et comme tu le dis, auparavant, je bloguais plus pour moi-même, plus pour partager ce que j'apprenais. En cours du soir, je faisais des formations, enfin, je suivais des formations. Et puis finalement, tu sais comme moi, quand tu es seul, il faut se spécialiser, mettre des priorités. Et c'est difficile d'être bon et d'apporter beaucoup de valeur dans un domaine lorsqu'on s'éparpille trop. Donc j'ai choisi le domaine de l'organisation parce que celui-ci m'avait beaucoup, beaucoup personnellement aidé et j'avais envie de partager ça avec plus de monde.
Ouais, et je sais que tu as comme une belle histoire à ce niveau-là. On n'aura peut-être pas le temps d'aller dans tous les détails là-dessus puisqu'on veut plonger dans le sujet, mais tu sais, toi, tu disais, je pense que tu en as parlé souvent sur ta plateforme, sur ton blog, qu'à la base, toi, je pense que tu es un gars de chantier, de construction. T'es pas un gars... l'organisation, c'était pas ta force première, mais tu as fait tout un travail dans ta vie pour aller te former puis développer des bonnes méthodes.
Voilà, c'est ça. En fait, à la base, j'étais pas très scolaire, donc j'étais parti... On va pas, comme tu le dis, trop s'étaler, mais j'ai bossé sur les chantiers de construction, aussi sur les chantiers de paysagisme. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai décidé de changer de voie. Et puis ça a fonctionné. J'ai aussi eu un peu de la chance, mais ça a fonctionné. Et puis c'est intéressant.
Donc, pour encourager les gens qui nous écoutent et qui se disent « moi, l'organisation, c'est tellement pas ma force », toi, tu serais d'avis de dire que c'est absolument possible de changer ça et de s'améliorer dans ce domaine-là?
Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, t'as raison. Et de toute façon, tout le monde s'organise. C'est dans la nature d'un système de s'organiser. Les personnes qui nous écoutent là, elles sont toutes organisées. Après, il y a des personnes... Tu sais, ce qui change, c'est un peu le à quel point on est organisé. Certaines personnes sont peu organisées, d'autres sont très organisées. Et puis j'ai envie de dire aussi que être surorganisé, ça n'a pas que des avantages. Donc il faut en fait trouver l'équilibre, trouver la balance. Et puis cette balance, cet équilibre est dynamique parce que beaucoup de choses changent, tout est impermanent. Et ça, c'est quelque chose, ben, on en reparlera, mais qui me tient à cœur, c'est que en fait l'organisation, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue avec nos centres d'intérêt, avec les imprévus qu'on rencontre, avec nos priorités, avec notre énergie. Et c'est ça qui est aussi qui fait que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours facile à appréhender, mais qui est très enrichissant.
Mm-hmm. Absolument. Et oui, l'organisation est évolutive, absolument. En fait, ça dépend de ce que tu fais dans ta vie actuellement, de ta saison de vie. Je veux dire, le parent à domicile qui est débordé par les besoins de son ou ses enfants va avoir des besoins qui sont spécifiques en organisation, tandis que le gestionnaire qui cumule aussi une petite entreprise par les soirs et les week-ends, lui, c'est une toute autre approche qu'il va avoir besoin. Donc, au final, il faut qu'on apprenne à se développer un système qui correspond à notre situation de vie.
Exactement. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans ce que tu dans tes écrits et également dans ton podcast, c'est que tu le dis souvent. Et je pense que c'est une bonne approche. C'est beaucoup trop de gens se mettent en mode chercheur de la pilule magique, chercheur du système parfait, alors qu'ils se créent en fait.
Absolument. Et c'est comme ça qu'on a tous commencé, nous, les soi-disant experts d'organisation. Ben, au départ, on a créé des systèmes pour nous. Là. Moi, c'était comme ça dans mes débuts. Toi aussi, tu avais créé à la base des outils pour gérer ta propre vie selon tes besoins du moment. Et ben, avec les années, c'est finalement quelque chose qui a fonctionné et qu'on enseigne à d'autres personnes. Mais au départ, on l'a fait pour nous et on a créé quelque chose sur mesure pour nos besoins.
Exactement, et c'est ce que je trouve intéressant avec Internet, c'est qu'à partir du moment où tu résous un de tes problèmes, il y a de fortes chances que d'autres individus aient le même problème et que la solution n'existe peut-être pas encore. Et je trouve ça génial avec les outils numériques qu'on a, c'est de pouvoir partager ça avec une audience.
Absolument. Bon, mais parlant d'organisation, un des défis d'organisation, je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est la gestion de toute l'information qu'on peut recevoir dans une journée. On est bombardé d'informations littéralement. que ce soit nos idées, les tâches qu'on doit faire, les demandes qu'on reçoit, les articles qu'on voudrait lire, les multiples livres qu'on voudrait, les choix de logiciels qu'on peut faire. Donc, la gestion de l'information, c'est une composante qui est essentielle de l'organisation. Toi et moi sommes d'accord pour dire qu'on a absolument besoin d'un système, d'une méthodologie pour bien gérer toute l'information qu'on reçoit dans notre quotidien. Autrement, c'est le chaos garanti dans notre tête. Et justement, ma première question, ce serait un petit peu ça. C'est quoi les effets que toute l'information peut avoir sur notre bien-être, sur notre concentration? Tu sais, quand on a le phénomène d'être bombardé d'informations, qu'est-ce que ça peut causer chez une personne?
C'est une très bonne question. Je vais simplement y répondre avec une autre question. Souviens-toi de la dernière fois, ou souviens-toi de ton état, ou comment tu t'es senti lorsque, parce que tu étais salarié aussi à une époque, lorsque ton patron t'a dit « Ok, est-ce que je peux te voir dans 2 minutes dans le bureau ?» Tu vois ? Ou « Est-ce que tu peux passer 2 minutes, il faut que je te parle ?» Tu vois, cette information, elle va créer un peu, alors pas chez tout le monde, mais chez beaucoup d'individus, on se reconnaît quand même dans cet exemple, dans le sens où on se dit « Mais qu'est-ce qu'il a à me dire ? Est-ce que j'ai fait faux ? Est-ce qu'il a des reproches ? Enfin bref, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et c'est un exemple juste pour, c'est un tout petit exemple juste pour dire que l'information a un effet, et cet effet n'est pas forcément facile à mesurer. On a de la peine en tant que travailleur du savoir, donc les gens qui passent la plus grande partie de leur temps derrière un ordinateur, on a de la peine à se rendre compte que l'information a un effet concret sur notre état, sur notre mental, parce que c'est difficile à mesurer. Ok. Pour moi, l'information, c'est un petit peu, je vais formuler la chose de la manière suivante. L'information est pour le travailleur du savoir ce qu'est l'eau pour le poisson.
Ouais. Okay.
Donc, les poissons ne se rendent pas forcément compte qu'ils naviguent finalement dans de l'eau parce qu'ils ont toujours navigué dans de l'eau. Et nous, les travailleurs du savoir, on n'a pas forcément l'habitude ou conscience de ce que provoque l'information et surtout l'excès d'information sur nous, alors que quand on tend l'oreille, on se rend compte que certaines personnes vont se dire « j'ai le cerveau en feu, je suis dans un brouillard mental, j'ai le cerveau qui ne s'arrête pas de pédaler ». Alors on utilise tous des expressions un peu différentes, mais la cause ou l'une des causes de cette oppression mentale, c'est une surcharge d'information. Et avec l'arrivée de la technologie, ou en tout cas la popularisation de la technologie, il y a eu la 3G, la 4G, la 5G qui est en train d'arriver. Je ne sais pas quelle est la situation au Canada, mais on a de plus en plus accès à énormément d'informations. Et finalement, on pensait à tort que la technologie allait nous sauver, qu'on allait réussir à finalement ne pas se remettre en question grâce à des applications, grâce à des fonctionnalités Gmail, etc. Et on se rend compte que finalement, on a de plus en plus de problèmes à gérer cette information parce qu'on a toujours d'un côté le papier et de l'autre côté le numérique. Et si on ne met pas un peu d'organisation de manière délibérée dans tous ces outils, dans toutes ces méthodes, dans toute cette information, on peut rapidement se retrouver avec une sorte de système hybride. On a de l'information qui se trouve un peu partout, on ne sait plus où elle est à jour, on ne sait plus où la chercher. Et finalement, on a le cerveau en feu. Et puis ça peut mener, on en discutait un petit peu avant cet enregistrement, mais ça peut nous mener à, ne pas réussir à trouver le sommeil parce qu'on a plein d'idées qui flottent comme ça dans notre cerveau, quoi. Donc ça, c'est les effets, c'est du stress mental, c'est de l'anxiété, c'est ne pas avoir les idées claires, c'est des trous de mémoire, c'est une sensation de surcharge mentale. Donc peu importe le terme qu'on utilise, mais on se rend compte en discutant avec les gens que ce mal est bien présent.
Absolument, absolument. Et moi, d'ailleurs, je l'ai vécu au début là, de ma jeune carrière, avant justement de me lancer dans l'organisation. Quand j'avais pas mon système que j'avais développé, c'était un défi. Et moi, c'était à l'époque, ça fait longtemps, là, mais j'étais à l'école pendant ces années-là. Et souvent, j'ai déjà partagé un petit peu cette anecdote-là sur le podcast, mais à l'époque, quand j'arrivais dans mes fins de semestre, mes fins de session à l'école, et là, la charge de travail augmentait énormément, bien, je n'avais pas de système pour gérer toute mon information. Donc, le professeur qui nous avait assigné des travaux à rendre, bien, c'était en quelque part dans un coin de mon cerveau. Les idées que j'avais eues pour rédiger, disons, mon travail de fin de session finale étaient à un autre endroit de mon cerveau, etc. Et là, j'avais une surcharge mentale et à un tel point où est-ce que ça m'est arrivé à quelques reprises d'en perdre le sommeil. Je me levais la nuit parce que je me disais « Oh, hey, c'est vrai, il faut pas que j'oublie tel truc. » Et là, mon cerveau essayait constamment de se remémorer sans cesse l'information qu'il essaie de retenir. Le problème, c'est qu'il y a des études qui ont démontré que le cerveau n'est pas fait pour archiver là, de l'information à long terme. On a une mémoire à court terme qui est très limitée, sa capacité est limitée. Il y a un nombre restreint d'informations qu'on peut stocker à cet endroit-là. Mais pour l'information de long terme, il faut absolument se fier à un système qui est extérieur à nous. Ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Et d'ailleurs, ça, tu en parles beaucoup sur ta plateforme, je pense. Hein?
Oui, totalement. Ben, encore une fois, je te donne raison. Et pour les personnes qui sont peut-être sceptiques, qui n'ont pas force, qui disent « Bon, c'est bon, moi, je fais confiance à ma mémoire et tout ça », on a de la peine à se souvenir de ce que l'on a mangé il y a 5-6 jours.
Ouais.
Tu vois, et comment veux-tu te souvenir de quelque chose, d'une idée que tu as eue il y a 6 mois, d'une idée que tu as eue il y a 2 ans, d'une conversation qui était intéressante ou encore... Tu vois, juste avant, il y a un client qui me donnait le matériel qu'il utilisait avec, pour enregistrer ses formations. Et... cette information-là, j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Je vais pas forcément aujourd'hui changer mon micro, tu vois, mais j'en ai peut-être besoin dans 3 mois. Et cette information, si je la stocke pas, je vais faire quoi? Dans 3 mois, je me dis, attends, c'est qui m'avait écrit? Il m'avait écrit dans ma plateforme de formation, il m'a écrit sur Gmail, il m'a écrit sur WhatsApp. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que, comme tu le dis, j'en parle beaucoup parce que moi, ça m'a énormément apporté en sérénité mentale, si je peux le dire comme ça, et puis en clarté. Et ce que je trouve beau avec le temps qui passe, quand tu as vraiment un système fiable, que certains appellent un deuxième cerveau ou un cerveau numérique, c'est qu'au bout d'un moment, ton premier cerveau, il lâche prise. Et au quotidien, il ne va plus te bombarder d'informations auxquelles tu dois te souvenir parce qu'elles ne sont pas stockées sur un support externe. Tu vois? Et ça prend du temps, ça ne vient pas tout de suite. Mais à partir d'un certain temps, ton cerveau lâche prise et tout ce qui n'est pas dans l'agenda, tu n'y penses plus forcément.
Mm-hmm.
Tu vois? Et ça, au quotidien, c'est génial parce qu'ensuite, tu peux vraiment te concentrer sur ta stratégie, sur ton dossier du jour, sur une discussion avec des gens. Et t'es pas bombardé par ton cerveau qui te dit « Hey, pense à ça, oublie pas ça, ah, il faut encore que tu fasses ceci, ah, et puis il faut que tu fasses cela. » Tu vois ce que je veux dire?
Exact.
Donc c'est vraiment...
Le phénomène classique d'ailleurs, là.
Pardon?
C'est le phénomène classique, ça, oui. Justement, de t'essaies de te concentrer sur un truc, mais parce que tu as mal géré l'information, ben ton cerveau est préoccupé et ça te distrait de la tâche que t'essaies de faire.
C'est clair. Bon, tu sais... Bon, toi, tu le sais parce que tu t'es aussi penché sur ces sujets, mais beaucoup de gens vont dire, bon, les distractions, c'est quelque chose extérieur à nous, ce sont les gens qui nous appellent, ce sont les notifications que l'on reçoit, etc. Mais, bon, les chiffres varient en fonction des études, mais une grande partie de ces distractions sont internes. Donc, c'est-à-dire, ce sont des distractions qui sont auto-générées, quoi. Donc, des fois, c'est bien, hein, je veux dire, tout d'un coup, t'as une idée... Génial, mais cette idée, t'en fais quoi? Tu la stockes? Tu la stockes sur un
canepin? Exactement.
Comment tu vas faire pour en faire quelque chose de concret?
Exactement. Et ça nous amène en quelque sorte, je veux qu'on parle un petit peu pour les prochaines questions là, de des outils qu'il faut mettre en place pour gérer l'information. Donc, premièrement, tu as touché un point qui est important, c'est que la solution devant la surcharge d'informations... pour régler le problème à la source puis retrouver une sérénité mentale, il faut que tu aies un endroit pour stocker chaque type d'information. Et là-dessus, je rebondis sur une question. On est d'accord que le type d'information qu'on reçoit dans une journée varie. On est d'accord, c'est pas tout le même type d'information. Je pense ici, je pense aux courriels qui vont nécessiter un certain système de traitement. Je pense à nos idées, aux notes de réunion, au matériel, disons, un article que tu aimerais lire. Donc ça, c'est toutes des informations qui sont différentes, mais qui nécessitent, selon moi, un outil particulier pour les gérer. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Les outils numériques, pour la plupart, là, qu'on peut utiliser, mais aussi le problème que ça peut causer. Parce que l'enjeu aussi, c'est que parfois, tu te retrouves avec tellement d'outils de stockage différents qu'au final, le problème est aussi pire, dans le sens que moi, j'ai vu des gens avoir, j'exagère, là, avoir 20 cahiers de notes différents, un bloc-notes sur leur téléphone, trois boîtes de email, un Google Drive, un compte Dropbox, deux to-do list, et tu vois le genre, là, j'exagère un petit peu.
Non, mais tu n'exagères pas tant que ça.
C'est ça.
C'est clair.
Donc, parle-moi un petit peu de ça, là, les outils, tout ça, quelles sont peut-être les bonnes façons de faire à ce niveau-là?
Ouais. Écoute, moi, je vais te parler de mon parcours et puis qu'est-ce qui m'a amené à finalement trouver une application qui me permet de gérer la plus grande partie de mon information. Évidemment, tu sais, je vais pas pouvoir tout gérer dans cette application parce qu'il y a des outils comptables, il y a des outils qui ont des fonctionnalités que cette application n'a pas. Mais pour toute mon information brute, donc tout ce qui est gestion de projet, agenda, liste d'idées, les réunions, les prises de notes, tout ça, je fais dans cette application. Okay, je t'en parle un petit peu plus loin. Mais comment je suis tombé sur cette application, parce que ça, c'est aussi intéressant, c'est que je suis parti voyager et auparavant, mon organisation était essentiellement papier et numérique. Donc, j'avais un système hybride qui provoquait ce que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire une certaine forme de surcharge mentale, malgré le fait que je sois bien organisé. Parce que tu dis, attends, je le note où? Où c'est que je l'ai noté? Est-ce que cette information est à jour? Est-ce qu'elle est à double? Est-ce que je peux supprimer cette information? Etc. Tu vois, des questions très, très terre-à-terre, mais auxquelles on est confronté. Et au bout d'un moment, j'avais plusieurs applications. J'avais l'application Bear pour la prise de notes, j'avais Google Drive, j'avais ThingsTree pour tout ce qui est les tâches, etc. J'avais Trello pour tout ce qui est projet. Non, pas Trello, MeisterTask, un concurrent. Et je vais y arriver. Déjà, chaque application, elle te coûte, ok? Ça, c'est clair. Alors, ça coûte pas beaucoup, mais ça coûte. Et puis ensuite, le problème, c'est que ton information, elle est fragmentée. Elle communique mal. C'est un petit peu comme des silos. Tu sais, tu as plusieurs silos ou tu as plusieurs bocaux. Et si tu veux prendre une information qui se trouve, par exemple, dans ta gestion de projet et que tu veux l'amener dans ton agenda, par exemple, ou l'inverse, eh ben, tu dois faire un copier-coller parce que ça communique mal. Tu vois? Et donc, je me suis dit, plutôt que faire des va-et-vient à longueur de journée avec mon information, moi, j'apporte de la valeur quand je travaille sur cette information. Tu vois, quand je crée quelque chose avec cette information. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, ben, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un endroit où stocker mes trucs en tout genre. Donc, idées, choses à acheter, livres à lire, restaurants à visiter, quand les restaurants étaient encore ouverts. Et puis après, un endroit où j'ai mes projets et puis un endroit où j'ai aussi mon agenda. Ça, c'est quelque chose qui est assez propre à ma manière de voir l'organisation. C'est que pour moi, dans mon cerveau numérique, j'ai aussi l'agenda. Donc, tout est vraiment centralisé au même endroit. Puis un endroit où je vais prendre mes notes des livres que je lis. Un endroit où je vais mesurer mes habitudes. Un endroit où je vais faire les procès-verbaux des séances. Tu vois. Et ça, c'est aussi dans l'agenda qui se trouve dans le cerveau numérique. Et cette application, donc que j'aborde maintenant en fait, s'appelle Workflowy. Donc c'est ce qu'on appelle un idéateur, un outliner, et ça fonctionne un petit peu comme le concept du Google Map, sauf que c'est pour ton information. C'est que t'as qu'un seul document, et en fonction de tes besoins, tu vas zoomer dans le document et dézoomer. Et donc peu de gens ont l'habitude de bosser avec ça, mais c'est très puissant et puis ça te permet de faire de beaucoup 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 de choses. Mais il faut apprendre à maîtriser cette manière de travailler. Beaucoup de gens passent à côté de la puissance des idéateurs ou des outliners. Mais après, tu as d'autres applications du genre. Hein. Tu as Roam Research, qui a pas mal fait parler de lui ces derniers temps. Tu as Obsidian, tu as Dynalist, bref. Mais c'est assez propre aux idéateurs. Et puis, ça te permet vraiment d'avoir tout au même endroit. Et quand je dis tout, évidemment, il y a une petite parenthèse. Hein. Je ne vais pas gérer mes factures là-dedans, je ne vais pas gérer mes dépenses là-dedans. Mais tout ce qui est information brute, donc c'est-à-dire information que tu peux travailler facilement, information format texte, c'est gérable dans cet outil et ça en fait quelque chose de très intéressant. Tes auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils devraient y jeter un œil. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux commencer là où le besoin est le plus important, juste pour te familiariser avec l'outil. Par exemple, si certaines personnes s'organisent avec des to-do lists, elles peuvent gérer leur to-do list là-dedans. Si certaines personnes prennent des notes, elles peuvent commencer à prendre des notes là-dedans. Pour un peu se familiariser avec l'outil. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas forcément un outil qui est meilleur que l'autre. Il faut juste trouver celui avec lequel on a du plaisir à travailler. Donc,
absolument. Et cet outil-là, Workflowly, par rapport à, un comme Evernote, que moi j'utilise beaucoup, et Notion, là, maintenant, qui est nouveau sur le marché, qui fait beaucoup parler de lui. Là. Je sais que Notion... Notion, je pense que c'est un outil qui est un peu dans ce sens-là. Ça vise très, très large. En fait, la promesse d'un outil comme Notion, c'est organiser toute votre information au même endroit. Ouais. Donc, leur quête à eux, c'est un petit peu de remplacer Google Drive, Google Agenda, que tu puisses vraiment gérer toutes tes informations là-dedans. Sauf que par rapport à Workflowly, je pense que, mettons, un logiciel comme Notion, c'est un petit peu plus structuré comme étant une grosse base de données, tandis que Workflowly met l'accent sur une présentation un peu plus visuelle, cérébrale en quelque sorte, comme tu disais. Là, c'est comme un peu des compartiments de ton cerveau. C'est ça, hein?
Alors, si tu veux, Evernote, je ne vais pas pouvoir m'exprimer parce que je n'ai pas creusé suffisamment en profondeur le logiciel. Le truc qui m'avait, tu me dis si je me trompe, hein, le truc qui m'avait fait abandonner ce système à l'époque, il a des avantages qui sont très bons, hein, le multiformat, je trouve ça très très fort, mais ce qui m'avait un petit peu repoussé, c'est le fait que je ne pouvais pas créer vraiment une arborescence très profonde.
Ouais, c'est vrai, parce que tu es limité à deux niveaux quand on utilise les cahiers de notes, mais ton arborescence, tu peux la contourner en faisant une structure avec des étiquettes. Bref, pour les gens qui n'utilisent pas Evernote, ils comprendront rien de ce qu'on parle. Là, mais...
ouais. Ce que je trouvais intéressant avec Notion, pareil, j'ai essayé à trois fois de faire un test sur cet outil, j'ai jamais croché. Pour moi, il y a quelque chose dans le design qui fait que je ne croche pas avec cet outil. J'ai l'impression que c'est un peu... tu peux vite t'y perdre. Tu peux vite te perdre dans l'optimisation et dans le fait que ton logiciel soit joli. Pour moi, Workflowly, c'est plus un truc brut de décoffrage. C'est que du texte. Et justement, les personnes qui ne sont pas forcément visuelles, ou les personnes, pardon, qui sont visuelles, vont peut-être se retrouver un petit peu perdues au début. Donc voilà, je pense que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Moi, ce que j'aime vraiment dans le concept de Workflowly, c'est que ça reste rapide, c'est fiable. Et puis, quand je dis rapide, là, au moment où on parle, j'ai 2 200 000 mots dans mon cerveau numérique. Le temps de recherche est super fluide, tu vois. Et Notion, je ne connais pas, hein, donc je ne peux pas forcément m'exprimer sur les performances après 3 ans d'utilisation intensive. Moi, j'utilise presque tous les jours le cerveau numérique et puis j'écris tout dedans, mes formations, tout ça. Donc, il y a pas mal de textes. Je prends aussi des résumés de livres dedans, donc c'est fiable. Donc voilà, après je pense que ce qui est intéressant avec Workflowly, c'est que c'est facile et puis donc la prise en main, elle est facile. Après c'est une question de goût et couleur, tu sais. Moi je suis pour que les gens utilisent quelque chose de centralisé. Après peu importe ce qu'ils utilisent, tant qu'ils trouvent leur bonheur, quoi.
C'est ça. Donc justement, peut-être pour donner une recommandation concrète à ceux qui nous écoutent. Donc, le point ici qu'on essaie d'établir, c'est que pour régler le problème de la surcharge d'informations, tu te dois d'avoir un système centralisé de gestion de ton information. Donc, ici, il faut savoir, Julien a son approche, a sa méthode avec Workflowly, et je suis certain que ça marche très bien. Moi, j'ai une approche où est-ce que ce que j'enseigne, c'est plus avec Evernote. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié au maximum. En fait, j'ai coupé un maximum d'applications. Aujourd'hui, mon système, là, pour faire ça vite comme ça, les outils que j'utilise pour gérer mon information, c'est évidemment Gmail pour mes courriels, Evernote pour tout ce qui est idées, notes, recherche sur Internet, plan d'action, bref, vraiment beaucoup d'informations. Mes projets, je les gère dans Evernote. Mes tâches, je les gère dans Evernote. Et quoi d'autre qui me reste? J'ai Google Agenda, évidemment, parce qu'Evernote n'a pas la fonction d'agenda intégrée dans ce logiciel-là, contrairement à Workflowly, selon ce que tu me dis. Et j'ai aussi un Google Drive pour stocker mes fichiers sur le cloud, là, dans l'info dans le nuage. Donc, en gros, mon système de gestion de l'information là, se résume à plus ou moins à 4 piliers. Là. Google Drive, Google Agenda, Evernote et mon Gmail. C'est beaucoup mieux, nettement mieux que quelqu'un qui aurait, par exemple, Dropbox, OneDrive, Google Drive, 3 boîtes mail, bloc-notes sur leur téléphone, cahier de notes physique. Et là, ton information, elle est vraiment dispersée et ça pose problème. Donc, le point ici qu'on pourrait vous conseiller, moi, Julien, c'est ayez un système de gestion centralisé. Vous pouvez, honnêtement, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce que la méthode de Julien, je crois que tu as même une formation à ce sujet. Donc, je vous invite, je mettrai le lien, puis les gens pourront aller jeter un coup d'œil là-dessus. Cool.
Merci. Ouais, je pense
Vas-y.
Je vais rebondir là-dessus. Encore une fois, moi, je pense que c'est bien de réduire au maximum les applications. Clairement, moi, j'ai aimé les Workflowy, c'est la plus grosse partie, parce que justement, Workflowy maintenant permet, ben c'est bêta, c'est pour ça que je le recommande pas encore, hein, mais c'est une fonctionnalité qui est en train d'arriver, mais permet de gérer les PDF, les images. Donc, petit à petit, Google Drive, il perd un petit peu de sa splendeur, si je pourrais dire. Il y a de la concurrence, en tout cas. Et puis à voir avec la durée. Après, je te dis aussi que j'ai essayé de gérer mes dépenses et puis mes finances là-dedans. Et puis je pense qu'il faut qu'on se souvienne de la citation d'Abraham Maslow qui disait si le seul outil, si vous avez pour seul outil un marteau, tout ressemblera à un clou. Donc c'est aussi important au bout d'un moment de se dire bon. Ça, je ne vais pas pouvoir faire là-dedans. Et puis je fais la paix avec ça. Donc, moi, c'est avec une petite larme à l'œil que j'ai dû renoncer à la gestion de mes finances dans Workflowy.
Oui, c'est ça. À m'amener, s'il y a une limite aussi, un logiciel ne peut pas tout faire. Là, donc
c'est,
ça,
clair. C'est un petit peu mon rêve.
C'est ça. OK. Il y a une chose que toi, tu me disais aussi, et je suis bien d'accord avec ça. Une des pratiques d'excellence... Quand on parle de gérer son information, du moment que tu as le système en place, il y a une des habitudes qui est fondamentale et c'est l'habitude de capturer son information. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ouais. Alors, tu t'en parlais un petit peu plus tôt dans le podcast quand tu as dit que notre mental n'est pas fait pour mémoriser beaucoup d'informations, une tonne d'informations. Et je rebondis là-dessus parce que justement, c'est sauf erreur David Allen qui en parle, qui dit que notre mental est fait pour penser et créer, pas pour mémoriser beaucoup d'informations. Et si là maintenant je te balance plusieurs chiffres à la suite, ensuite une recette de cuisine, ensuite une idée de business, ensuite quelques idées de livres à lire, tu peux peut-être tout retenir, hein, si tu as une bonne mémoire et puis que tu te concentres vraiment. Tu vas probablement tout retenir, mais au bout d'un moment, tu vas faire que ça et tu vas pas vraiment pouvoir utiliser ton cerveau pour faire d'autres choses comme, je sais pas, écrire un article, comme coacher une personne, comme, je sais pas, développer une stratégie pour ton business ou alors pour simplement réfléchir à quoi te former dans le futur. L'idée là derrière, c'est que si tu espères tout retenir avec ton cerveau, tu vas vite être surchargé et tu vas peut-être manquer des opportunités, tu vois. Et l'idée, c'est au fil des heures qui passent, c'est de prendre comme habitude la simple habitude de noter tout ce qui te traverse, tout ce qui se traverse l'esprit. Donc toutes les idées qui te traversent l'esprit, tu les notes sur un support qui est fiable.
Dans ton système, idéalement, tu les notes dans ton système d'organisation, là.
Justement, et ça, c'est un truc aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai pris Workflowy, tout simplement parce que ce soit sur ma tablette, sur mon smartphone ou sur mon ordinateur, j'ai toujours le même logiciel qui est évidemment synchronisé en temps réel et qui me permet justement au pire des cas, j'ai que mon smartphone parce que honnêtement, le smartphone, il passe énormément de temps dans notre poche ou à proximité, en tout cas à portée de main. Et donc, c'est assez rare de se dire, bon, j'ai jamais un outil numérique à porter pour y déposer mon idée. Et donc, je te donne juste un exemple, mais par exemple, je suis en train de marcher dans la rue, je pense à quelque chose, bam, je vais dans mon inbox, je pose l'idée. OK? Je suis en train de traiter mes emails. Tout d'un coup, j'ai un lecteur qui me dit « Hey, Julien, j'arrive pas à choisir l'une des formations. Il faudrait que tu fasses un quiz qui nous permette de savoir par quelle formation commencer si on n'a jamais pris de formation. » Tu vois, qui est une bonne idée. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis dans mes emails. Hop, je glisse cet email dans ma boîte de on appelle ça l'inbox de mon cerveau numérique, tu vois. Ouais. Et donc cette idée-là, ensuite, je la traite. Tu vois, je vais pas simplement la laisser mourir dans l'inbox. Non, je vais la mettre, par exemple, dans les idées intéressantes pour améliorer l'organisologie, par exemple. Je suis en train de discuter avec madame, ma conjointe. Je dis, ah ouais, t'as pensé à ça? Ah non, tac, attends, je note vite, tu vois. Et donc, c'est vraiment capturer sa formation pour pouvoir la réutiliser plus tard et surtout pour laisser notre cerveau tranquille.
Exactement. Et l'aspect d'accessibilité à l'information, du moment qu'elle est bien classée, c'est fondamental. Écoute, tu parlais de ta conjointe, je vais me permettre un petit exemple parce que elle m'a donné un exemple tout parfait. C'est arrivé hier, justement, ça m'a fait rire. On était à la maison, on était en réorganisation de son espace de travail. Alors là, évidemment, tout ce qui est classeur pour les documents papier, on a encore un petit peu de classement papier à la maison. On avait bougé ça. Et en tout cas, faire une histoire courte, son classeur de papier n'était pas en ordre. Et là, hier, justement, elle était en train de créer quelque chose parce que c'est une créatrice de contenu. Ma conjointe également, elle était en train de créer quelque chose et elle avait besoin de retrouver son bout de papier en question qu'elle avait supposément rangé dans son classeur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est qu'elle ne le retrouvait pas parce que le classement n'avait pas été bien fait. Et elle a dû comme passer quoi, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes à rechercher le fameux papier dans le but de pouvoir créer sa pièce de contenu. Et là, je lui ai dit à la blague, j'ai dit « Merci, tu viens de me donner une belle exemple pour mon podcast, en fait, parce que c'est tellement ça. » C'est du moment que tu as stocké l'information, c'est important de pouvoir la retrouver rapidement. Et je crois que c'est encore David Allen qui parlait de ça dans son livre « Getting Things Done ». Il disait « Un bon système de classement devrait te permettre de retrouver tout type d'informations en moins de 2 minutes. » C'est fort, ça, là.
Mais je pense que c'est une très bonne promesse et je pense que c'est un beau but à atteindre. Moi, honnêtement, je ne peux plus te dire la dernière fois où j'ai cherché une information plus de 2 minutes.
C'est ça. Donc mais c'est possible, ça veut dire. Parce que moi, de mon côté, c'est pareil. Là, je perds jamais de temps à chercher de l'information. C'est très, très rare.
C'est faisable. Après, ça peut arriver. Tout d'un coup, tu dis, attends, c'était quoi le mot-clé? Parce qu'on fonctionne comme ça. Hein. Soit on met un mot-clé de manière volontaire. Et si on ne met pas forcément un mot-clé de manière volontaire, parce que tous les mots sont recherchables par le logiciel. Là, je te parle de Workflowy, mais la plupart des logiciels, c'est ça. Hein. Chaque mot devient accessible avec la fonction recherche. En fait, tu dis, attends, ah, c'était cette personne qui m'avait parlé de ça, ou alors c'était ça. Et très rapidement, tu as quoi? Maximum une dizaine d'options dans lesquelles choisir manuellement une fois que tu as fait ta recherche.
Ouais, c'est ça. On est d'accord, oui, il peut avoir un petit temps parfois de voilà. Recherche là, de temps à autre. Mais ça va quand même beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'aurait pas un bon système de rangement de son information.
Ça devient anecdotique. Et après, bah, tu appliques ça parce que moi, j'utilise ce système Workflowy. J'utilise évidemment comme cerveau numérique pour toute information brute. Mais à côté, bah, mes finances, j'essaie aussi de bien les gérer, mes dépenses d'avoir tout au même endroit, etc. Et puis, bah, une fois le concept de mot-clé, il est applicable. Et puis au bout d'un moment, quand tu as un système, tu sais, moi, j'ai toujours... d'abord, on fait fonctionner, ensuite, on améliore. Ça, c'est un peu mon motto. Et je pense qu'à partir du moment où tu as un système, une application avec laquelle tu as du plaisir à travailler, bah, forcément, tu vas y revenir. Et si tu es dans cette démarche de t'améliorer continuellement, de manière délibérée, alors petit à petit, tu vois, tu vas dire « Ah ouais, non, mais je pourrais faire ceci comme ça, je pourrais faire ceci comme ceci. » Et le chemin en soi devient grisant, le chemin devient enrichissant. Et ton système, finalement, comme on l'a dit, on revient sur ce qu'on a dit au début, vu que tout bouge, vu que tout est impermanent, vu que l'organisation, c'est quelque chose de dynamique, ben ton système, il ne sera jamais abouti. Et c'est OK. Et c'est ça qui est cool.
Exact. Dernière question avant de te laisser. Je vois le temps qui passe. Aurais-tu quelques petits trucs en rafale, sans trop s'étendre là-dessus, pour qu'on puisse réduire le phénomène de l'infobésité, tu sais, qui est la surcharge d'informations? On appelle ça l'infobésité, là. As-tu quelques conseils là-dessus?
Ouais. Alors, en rafale, comme ça, premièrement, s'intéresser à cette notion de centraliser l'information personnelle. Si vous écoutez ou si tes auditeurs t'écoutent, ils vont forcément savoir comment trouver cette information. Cerveau numérique ou alors second cerveau, c'est toutes des pistes, mais c'est intéressant. Ensuite, trouver des raisons à consommer ceci ou cela. Tu sais, les médias, le business, le modèle de business des médias, c'est la peur. Moi, là, les médias, je les consomme presque pas. On n'a pas beaucoup parlé de ça hein, dans ce podcast, mais vraiment réfléchir aux raisons de consommer ceci ou cela. Moi, je fais attention à mes sources d'informations. C'est un peu comme mon alimentation, ça va énormément m'impacter. Et si vous lisez beaucoup de livres, donnez la priorité aux anciens livres. Ça, c'est quelque chose qui semble un peu contre-intuitif et puis ça va pas forcément servir mes intérêts parce que j'ai un livre qui est sorti il y a quelques jours. Mais en gros, le temps prédit la valeur. Donc, c'est-à-dire quand quelque chose de non périssable voit sa durée de vie augmenter avec le temps, plus une idée est là depuis longtemps, plus il y a de chances qu'elle soit valable longtemps encore. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Lindy et c'est assez intéressant. Et puis sinon, capturer les boucles ouvertes, comme je l'ai dit, et puis surtout ensuite les traiter. Et puis un point aussi très important, et ça je le répète justement dans ma formation et puis tout le temps, c'est les revues, entretenir le système. Un système, en fait, le cerveau numérique, tu peux le voir un peu comme ton appartement. Si ton appartement, tu le ranges, t'es content, t'es heureux, t'as fait de l'ordre, mais assez rapidement, t'as peut-être du courrier qui se met sur ta table, ou alors t'as des habits qui commencent à se mettre, pas au bon endroit. Bref, il y a du bordel. Et donc, toutes les semaines, tu vas, deux fois par semaine, tu vas ranger ton appartement. C'est la même chose avec ton système d'information. Tu dois l'entretenir. Parce que sinon, il va périr plus rapidement. Et c'est en fait ce problème-là qui fait que beaucoup de gens n'utilisent pas les systèmes sur la durée.
C'est qu'à un moment donné, ils ont une période de leur vie, je ne sais pas, il y a une situation qui fait qu'ils sont en retrait du travail pendant 2 ou 3 semaines, ils reviennent, le système n'est plus à jour et là, ils l'abandonnent.
Exact. La plupart des gens travaillent en dents de scie, donc ils ont une situation urgente, ils trouvent une solution rapide, puis ensuite, la situation redevient comme avant. Et le seul truc que j'ai envie de dire, c'est qu'entretenir le système, c'est pas une perte de temps, c'est une manière justement d'améliorer le système et puis surtout d'en apprendre beaucoup plus sur soi-même. Parce que si on fait du journaling dans son cerveau numérique, on peut passer du temps à relire les problèmes que l'on a rencontrés dans le passé. On peut voir peut-être des trucs qui reviennent régulièrement que l'on a envie de traiter, des problématiques que l'on a envie de traiter. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant et c'est l'un des points les moins bien compris. Les revues quotidiennes, hebdo et mensuelles doivent, à mon avis, être faites. Et puis, il faut commencer par les revues hebdomadaires. Parce que revues quotidiennes, c'est un peu difficile au début quand on croule peut-être sous le travail. C'est difficile de voir l'intérêt de faire des revues quotidiennes, mais au minimum des revues hebdo.
Ouais, absolument. Et moi, pour donner un petit conseil à nos auditeurs, cette fameuse revue-là de mon système, moi, je l'ai intégrée dans ma routine de planification de la semaine. J'ai d'ailleurs parlé de cette discipline dans un épisode précédent du podcast, quand je prépare ma semaine d'avance, je me bloque une heure pour préparer ma semaine. Et oui, je planifie ma semaine dans le sens quelles sont mes priorités, mes tâches, mon agenda pour la semaine à venir. Mais dans cette même routine-là, je vais aussi dans mon système de gestion d'information, mon cerveau numérique qui est Evernote de mon côté, et je fais une petite mise à jour rapide. Qu'est-ce qu'on veut dire par mettre des choses à jour? C'est par exemple, est-ce qu'il y a de l'information qui est là que je n'ai juste plus besoin? Et là, on supprime rapidement certains trucs. Parfois, c'est dans la catégorisation, tu sais, renommer des dossiers de classement, renommer des étiquettes, des petits trucs du genre. Mais honnêtement, moi, ça se fait assez rapidement. Là, je pense que ça me prend peut-être un 10 minutes, gros maximum, pour mettre à jour mon système. Et quelques fois par année, quand j'ai des grands changements majeurs dans ma vie ou dans mon organisation, là, je vais peut-être aller faire une mise à jour plus longue de mon système, mais c'est seulement quelques fois par année. Donc, ça se fait très bien. Bon, écoute, Julien, on arrive déjà à la fin. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer de discuter pendant longtemps encore. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Peut-être qu'on pourra en reparler éventuellement. En terminant, tu es quand même quelqu'un qui a créé des belles ressources sur le sujet de l'organisation. Justement, tu es là depuis longtemps. Tu fais un travail de qualité. Et il y a deux ressources que que je pense qu'en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, que je serais prête à recommander aux auditeurs. Premièrement, ta formation qui est sur Workflowly. Mm-hmm. Donc, tu me donneras le lien et les gens pourront juste cliquer là-dessus. Allez peut-être jeter un coup d'œil. Si l'application Workflowly vous pique votre curiosité, vous aimeriez en savoir plus sur ce que Julien propose, ben allez jeter un coup d'œil à ça. Et l'autre chose, ben, c'est ton livre qui s'appelle « 2 heures chrono pour mieux s'organiser », un livre que tu as publié il y a quelques années, mais tu viens tout juste à l'instant de ressortir un deuxième épisode complètement revu de ce livre-là. Donc, pourrais-tu juste expliquer à nos auditeurs très rapidement de quoi on parle dans ton livre?
D'organisation, mais j'essaie d'apporter un peu ma touche de personne qui est passée par plusieurs professions, dans plusieurs domaines, tu sais. Et puis j'essaie justement d'aborder l'organisation autrement qu'en commençant par les to-do list, mais je commence avec la philosophie, donc une philosophie pour avoir une vie organisée, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses. C'est l'organisation, on dit toujours, c'est simplement des trucs à cocher dans un agenda ou sur une to-do list, mais pour moi, on change de comportement. Donc en fait, c'est moins facile que ce que ça en a l'air, surtout si on veut faire ça sur la durée et pour de bon. Donc je parle beaucoup de philosophie, d'état d'esprit, un peu de stratégie. Donc je donne quelques lois, mais bon, je pense que tes auditeurs les connaissent, loi de Pareto. Mais encore une fois, j'essaye de les rendre concrètes et applicables dans la réalité, sans devoir sortir de calculatrice ou faire de graphes. Puis après, je parle de système. Là, encore une fois, je parle de gestion de l'information, cerveau numérique, gestion des mails, paperasse, numérisation de la paperasse. Et puis ensuite, je donne quelques outils qui, à mon avis, sont très importants et qui sont parfois pas bien compris, notamment la to-do list, notamment l'agenda, et puis le smartphone qui est souvent mal configuré et qui fait que beaucoup de gens très talentueux passent leur vie, en fait, à être distraits. Donc, voilà, je suis très content d'avoir eu la possibilité d'être republié par Duno pour cette seconde édition. Et puis on verra si les gens, si cet ouvrage résonne auprès du public.
Je suis certain que oui. En tout cas, j'avais consulté la première édition, puis j'ai été très hâte de revoir la nouvelle édition. En tout cas, donc un gros merci, Julien, d'être venu ici sur le podcast. Discussion très enrichissante. Puis si tu es ouvert à ça, moi, j'aimerais bien te recevoir à nouveau dans le futur. Tu as vraiment beaucoup à apporter là, sur la thématique de l'organisation. Donc, c'est très plaisant de parler avec toi.
Cool. Merci, Mathieu, pour d'avoir pensé à moi, de m'avoir offert cette opportunité. Aussi pour tout le travail que tu fais depuis un bon moment aussi. Et la valeur que tu apportes à ce monde, quoi, à ce monde dans l'organisation, auprès de ton audience. Et puis, avec un grand plaisir pour un autre échange sur le sujet de l'organisation.
Merci, bye-bye.
Ciao, Mathieu, bye-bye.
Donc, voilà qui termine cette discussion avec Julien Guaignat. J'espère que vous l'avez apprécié. Et surtout, la chose que vous devez retenir, c'est que ça vous prend un système centralisé pour gérer votre information. Donc, passez à l'action par rapport à ce conseil-là, cette recommandation-là qu'on vient de vous faire. Ça va avoir un impact énorme sur votre organisation. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Productif au quotidien.